Yo les amis, c'est Flo in the Flow, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cet épisode numéro 9. Alors un épisode un petit peu particulier parce que là aujourd'hui, c'est la fête des pères. Eh oui, c'est la fête des papas. Donc du coup, je me suis dit, on va suivre l'inspiration, hein, on va suivre le flow et puis on va faire un petit épisode là sur les papas. Les papas, et en même temps, ça me donnera l'occasion de vous parler un petit peu plus de moi pour que vous puissiez me connaître davantage. En tout cas, c'est peut-être pour certains la première fois que vous entendez ma voix, que vous écoutez un de mes épisodes. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui venez partager un petit peu de votre temps avec moi. Ça me fait vraiment très plaisir. Je m'appelle Florian, je suis spécialisé dans l'accompagnement des transitions de vie. Et voilà, j'accompagne plutôt des personnes qui ont décidé d'arrêter de subir une vie souvent toxique, souvent en lien avec un travail qui ne leur correspond plus, et qui ont décidé de monter sur scène et de s'offrir un nouvel avenir. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. C'est, comme j'aime bien le dire, c'est de pouvoir semer des graines, c'est de nourrir des projets. Et c'est aussi d'aider à accoucher. Et c'est là que le lien va se faire avec l'épisode du jour. Alors, quand vous savez, quand je parle de ça, de nourrir, de semer, de faire pousser, d'aider à accoucher, ben là, je parle de mes valeurs. C'est ce qui m'anime au quotidien. C'est ce qui fait que tous les matins, j'ai envie de me lever et que je trouve du plaisir dans l'émission que je réalise au quotidien. Donc cet épisode, il s'adresse aussi aux mamans, parce qu'il n'y aurait pas de papa sans maman, hein, bien sûr. Alors, il y a les papas solo, il y a les mamans solo, mais je veux dire par là, c'est que je m'adresse aussi dans cet épisode à celles et ceux qui peut-être aujourd'hui essayent d'avoir un enfant, ou plusieurs, et qui n'y arrivent pas. Et c'est là où je vais vous partager un petit peu de mon histoire. J'ai rencontré ma compagne, qui est toujours ma nana actuelle, qui s'appelle Sandrine. C'était le 10 octobre 2002. Donc c'est facile à se souvenir, le 10-10-20-02. Et donc à l'époque, on faisait beaucoup, 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 beaucoup la fête. Mais beaucoup la fête. Moi, j'ai connu le démarrage des soirées techno, etc. Donc voilà, c'est un univers dans lequel j'ai passé énormément de temps. J'ai fait beaucoup la fête, j'ai fait beaucoup de conneries, j'ai pris beaucoup de drogue, j'ai fait, voilà, j'ai eu un parcours assez underground et vraiment, j'y étais vraiment, quoi. Mais avec toujours quelque part, une dose de positivité, c'est-à-dire que c'était pas le côté dark des choses. Moi, j'ai eu consommé des drogues, j'ai eu fait la fête, mais toujours dans un environnement hyper festif, hyper positif, hyper high, vraiment dans le love, etc. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de ne pas sombrer. Et donc, du coup, à l'époque, au bout de quelques années de partage de vie commune, on a eu l'envie de faire des enfants. Et ça, c'était en 2005 à peu près. Et malgré nos tentatives, tout cela restait infructueux. Donc, au bout d'un moment, Sandrine m'a dit, écoute, on va aller quand même voir un peu ce qui se passe au niveau médical, etc. Et puis, pourquoi pas tenter de faire des FIV, la fameuse fécondation in vitro. Alors, j'avoue que j'étais pas très, très, très chaud, hein. Moi, aller dans les hôpitaux, machin, faire un truc avec des éprouvettes, des machins, il y avait un truc qui n'était pas du tout naturel dans cette histoire. Et ça me bloquait un peu. Mais bon, j'étais amoureux, je lui dis, écoute, ok, si tu veux, on fait ça, on va voir si ça peut aider aux choses, quoi. Et puis, alors là, je vais vous raconter des choses assez intimes, mais quand on commence à rentrer dans ce parcours, on vit des choses un petit peu particulières, notamment celle de faire des spermogrammes. Alors là, je m'adresse au futur papa ou peut-être à ceux qui sont déjà dans ce parcours-là. Donc en gros, hein, vous avez rendez-vous à 7 h du matin à l'hôpital. Et puis là, on va vous accompagner dans une petite pièce et on va vous dire, ben, monsieur, voilà, on va vous laisser quelques temps, quelques minutes, on va devoir récupérer de votre matière, voilà, hein, du sperme, etc., pour pouvoir faire des analyses. Donc c'est assez bizarre, hein, je vous avoue, la première fois, d'autant que moi je me suis retrouvé dans une pièce où il y avait rien en particulier, je m'en rappellerai toujours, il y avait un cadre. Alors c'était censé, je me dis peut-être, m'exciter ou quoi que ce soit. C'était un cadre avec une femme de type un peu indienne qui était de dos. Donc on voyait juste le haut de ses épaules et le derrière de son visage et elle avait la tête un tout petit peu tournée. Bon, soit. Bon, bah écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis voilà, cette scène, je l'ai vécue plusieurs fois. Hein. J'ai dû en faire 5 ou 6, hein, des allers-retours. Puis c'est assez comique quelque part parce qu'on se retrouve avec les autres papas dans la salle d'attente et puis chacun va faire son affaire à tour de rôle, quoi. Et bref, et donc ça leur permet de faire des analyses, etc. Et moi, les analyses d'entrée, quand on s'est fait convoquer pour faire un peu le retour, ils m'ont dit, ouais, il y a un truc. Vous avez, est-ce que vous fumez? Oh, oui, un peu, mais est-ce que vous fumez du cannabis, etc., etc. J'ai dit, oui, un peu, beaucoup aussi. Ah, d'accord, ok, donc on comprend mieux. Ah, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fin de compte, vous avez le spermogramme d'un fumeur de joint. Ah bon? Alors ça, là, les bras m'en sont tombés un peu. Et je dis, c'est-à-dire, vous pouvez m'expliquer et tout? Ben, en gros, voilà, on s'aperçoit que les gens qui fument du cannabis ou de l'herbe, etc., ont un spermogramme qui n'est pas super, super, super. C'est-à-dire qu'en gros, les spermatozoïdes sont pas très mobiles, sont un peu feignants, quoi. En gros, hein, si je résume, c'est un peu des spermatozoïdes en mode roots tranquille. Et donc, du coup, ben, c'est pas spécialement favorable à pouvoir. À procréer et avoir un enfant. D'accord. Bon, ben de là, je me suis motivé. Pendant 1 an et demi, donc j'ai arrêté complètement de fumer. En tout cas, je continue à fumer des cigarettes, mais plus de joints. Et là, au bout d'un an et demi, en effet, j'ai dû passer de 4% de spermatozoïdes mobiles, etc., à 8-10%, quoi. C'était pas non plus l'extase, hein. Mais c'était déjà mieux quand même, on augmentait les chances. Et puis, du coup, bon, il faut aussi que je vous dise, moi j'avais cette partie-là, mais du côté de ma chérie, c'était pas triste non plus, puisque après on est rentré dans un protocole où elle devait se faire des piqûres d'hormones. Donc là, il y avait deux options, c'est soit tu prends une infirmière et tous les jours à 18 h tapante, tu fais ton petit shoot d'hormones, ou soit tu te le fais tout seul. Bon, elle ne craignait pas, puis en même temps, tous les jours, organiser sa vie pour qu'à 18 h, aller chez l'infirmière, machin, c'était un peu le bordel. Donc, elle a été très courageuse et elle s'est dit, ben non, moi, je vais me faire moi-même mes piqûres, etc. Et pas de souci. Et là, on est rentré dans des scènes un petit peu folklore, parce que je m'en rappelle d'une notamment où d'un coup, on est en bagnole et merde, putain, il est bientôt 18 h. Vite, il faut qu'on s'arrête. Alors, on essaye de trouver un petit chemin, un petit endroit un peu pour se planquer. Puis de là, elle sort sa boîte en fer avec sa seringue, ses trucs et tout. Et je me rappellerai toujours, il y a des gens qui passaient à côté de nous en voiture et qui se disaient, mais regarde-moi les, ces deux toxicos là, ils sont en train de se shooter au bord d'un chemin. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, vous voyez, comme quoi des fois la vie, on voit des choses direct, on va peut-être se faire une idée, un film. Alors que s'ils avaient su qu'on était là en train justement au contraire, d'essayer de créer la vie et de ne pas se détruire et de se la supprimer avec un shoot d'héros ou autre chose, du coup, ouais, c'était des scènes quand même très, très, très marquantes. Et donc, voilà, bref, donc cela augmentait aussi sa production d'ovules, etc. Donc, on optimisait à mort, à mort, à mort. Puis, on était devenus un peu des saints, hein, on n'allait plus en teuf, on faisait plus rien, quoi, on était vraiment à fond, à fond, à fond. Jusqu'au jour où on a eu un appel de l'hôpital qui nous dit, ah ben écoutez, ça semble bon, hein, parce qu'au début, donc ils prennent un spermatozoïde, ils le mettent concrètement avec l'ovule et tout. Et là, ça a fonctionné, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Donc demain matin, vous venez, puisqu'après, ils font l'implantation de l'embryon dans le corps de la femme, quoi. Et de là, le lendemain, on arrive là-bas, tranquille et tout, super, super excité, parce que ça y est, ça a fonctionné et tout. Donc, on attend dans la salle d'attente, on attend, et puis de là, deux gars viennent nous chercher en blouse blanche, là, et nous font rentrer dans une pièce avec une tronche de 15 kilomètres. Et les gars nous disent, oui, bah, écoutez, désolé, mais bon, voilà, pendant la nuit, la démultiplication n'a pas eu lieu. Donc, malheureusement, écoutez, on est désolé, on vous a fait peut-être venir pour rien, quoi. Bah, je dis, bah, c'est pas peut-être, c'est carrément, quoi. On est là pour rien, quoi, en gros. Donc, grosse déception, grosse claque. Il y a eu aussi un épisode, il faut que je vous le raconte, parce qu'il faut vraiment être armé pour partir dans ce genre de cheminement et de protocole. Un jour, on se retrouve devant le grand maître. Ah, lui, c'était le grand pape de la fécondation in vitro à Montpellier. Je ne citerai pas son nom, je vais rester sympa. Et ce gars, à un moment, je lui dis, mais je comprends pas, parce que quand on faisait, moi, mes spermogrammes, etc., et qu'on récupérait les ovules, etc., il faisait des embryons qui congelaient, en gros. Et à chaque fois, bah, si ça jamais ça marchait pas, on reprenait un embryon et on pouvait en réimplanter un en espérant que ce coup-ci, ça prenne. Et le gars, je lui dis, mais comment ça se fait que vous, chaque fois, il faut que je refasse un spermogramme et qu'on reprend tout le temps le protocole à zéro? Il n'y a pas y a une histoire là, où, d'après ce que j'avais compris. Et le gars, avec son accent d'Indien, il me fait « Comment je peux dire si vous voulez, monsieur, par exemple, si vous, à la maison, vous avez de la viande avariée, est-ce que vous allez la congeler ?» Pardon? Si vous avez de la viande avariée, est-ce que vous allez la congeler Non. Là, tu te dis, non, mais le gars, il plaisante ou quoi? Il n'a pas trouvé un autre exemple, un meilleur exemple, parce que là, si tu veux me calmer, t'es au top, quoi. Bref, ça, c'était le début du truc. Et puis après, on lui dit, ouais, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce qu'on ne comprenait pas grand-chose. Nous, on faisait plein de tests et tout. J'ai fait des trucs nucléaires, machin, je ne saurais même plus vous dire ce que c'est. Et le gars dit à ma chérie, il dit, ben, écoutez, vous voyez, là, il y a la montagne. Vous êtes en bas de la montagne, madame. Monsieur, dans le problème, il est en haut de la montagne. Donc, madame, ben, ce que je veux dire, c'est que si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est monsieur. Avec un autre homme, ça pourrait fonctionner, mais avec monsieur, ça ne peut pas fonctionner. Et là, je regarde le gars comme ça. J'ai deux options. Je le tue tout de suite, ou ben, c'est ce qui m'est arrivé, je reste scotché. Je ferme ma bouche, je dis plus rien. Et j'attends qu'un truc, c'est qu'on se barre. Et on s'est très vite barré de son bureau de merde. Donc de là, vous imaginez, grosse claque et tout ça. Et sur le chemin en voiture, ben, je m'arrête à un moment à un feu et puis je dis, tu sais, Sandrine, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'on va se séparer. Ça sert à rien parce que bon, ben, tu as bien compris que d'où venait le problème. Et je sais que toi, ton envie d'enfant est énorme. Et à partir de là, ben, moi, je ne suis pas là pour te gâcher ta vie. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis si toi, tu veux donner la vie, etc. Bref, j'étais prêt à mettre en l'air mon couple pour pouvoir sauver ma femme et lui permettre d'être maman de façon naturelle. Et de là, elle m'a dit, non, non, mais attends, t'es un malade ou quoi? Moi, si je veux des enfants, c'est avec toi. Et puis, ben, si ça ne se passe pas avec toi, on trouvera un moyen d'en avoir, etc., etc. Donc, ça met en... Vous voyez, tout ce que je vous raconte, ça met quand même une sacrée secousse et ça vient vraiment tester votre amour, votre relation, et ça, parce que ça l'ébranle. Donc là, si vous êtes dans ce genre de cas de figure, il va falloir être vraiment accroché et en même temps, c'est beau aussi parce que quand on traverse tout ça, après, ben, on est quand même super heureux et puis c'est que l'amour est très, 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 très fort, très puissant, quoi. Et du coup, moi, j'en suis revenu au truc de me dire, ouais, mais moi, tu vois, parce que là, je vous raconte ça, là, ça fait 7-8 ans. C'est-à-dire que moi, l'hôpital, c'était devenu ma deuxième maison, hein. Donc, on a fait ça pendant 8 ans, tous ces allers-retours. Là, je vous donne les anecdotes, les trucs les plus croustillants, mais j'en aurais d'autres encore à vous donner, à vous faire halluciner, quoi. Bref, Et c'est pas le but. Et de là, ben, je lui dis, écoute-moi, tu sais, Sandrine, ce truc, ça m'a jamais plu. D'aller là-dedans, de faire ces trucs, de pas exploiter à 100% le naturel, etc., ça me fait chier. Voilà, je te le dis, et voilà, quoi. Et donc, un jour, je découvre un gars, un vieux dans un village, voilà, un peu comme on pourrait dire un magnétiseur, un gars, voilà, qui avait pas mal de reconnaissance, de gens que j'entendais parler un petit peu de lui depuis quelques temps. Et donc, ben, je dis à Sandrine, va le voir. Donc, elle va le voir, elle passe une séance avec lui et il lui dit, ben, je veux voir Florian. Bon, je débarque chez chez cette vieille personne. Et puis, alors là, je vais être un peu cru, hein, désolé si je parle un petit peu froidement, mais je vais vous livrer les choses telles que je les ai vécues parce que ça a été aussi un électrochoc. Il me dit, bon alors Florian, qu'est-ce qui se passe? Bah, je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est vous qui vouliez me voir. Enfin, l'histoire, vous la connaissez. On essaye d'avoir des enfants, on n'y arrive pas. 8 ans de FIV, etc., etc. Il me dit, attends, attends, attends. Il me dit, c'est quoi le problème? Bah, j'ai dit, le problème. Il me dit, attends, attends, je te posais 2 questions. Il me dit, est-ce que tu bandes? Oui. Est-ce que tu gicles? Oui. Bon, alors c'est quoi ton problème? Ben, j'ai dit, le problème, apparemment, c'est que dans mes spermatozoïdes, il n'y en a que 8% qui survivent au bout de 48 heures, machin. Il me dit, 8% de combien de millions? J'ai dit, pardon? 8% de combien de millions? Ah, j'ai dit, j'en sais rien, j'ai pas compté. Il me dit, écoute, moi, il m'en faut un. Un seul. Ta femme, il lui en faut un spermatozoïde. Il n'en faut pas 5-10% de je ne sais pas combien de millions. Donc à partir de maintenant, tu vas arrêter tes conneries, tu vas aller retourner faire la fête, tu vas retourner à passer un bel été, tu vas te rapprocher encore plus de ta femme, tu vas lui dire que tu l'aimes, tu vas lui faire l'amour, etc., etc. Bref, lâche tout, ne va plus dans les hôpitaux et arrête ton truc, arrête tout le délire. Bon, ok. De là. Le lendemain ou la semaine d'après, ça tombait en plus, il y avait une fête de village là où on habitait, etc. On est parti en live complet, mais complet. Hein. On était passé d'une vie de saint depuis 1 an et demi, 2 ans, à d'un coup là, la soirée de timbrée, mais à un point, je peux vous garantir que waouh, c'était puissant, quoi. Et de là, le lendemain de cette soirée, je lui dis, écoute, tu sais, il faut qu'on aille prendre un peu le verre, quoi. Là, on a abusé et tout. Donc, plusieurs jours sont passés. Et on est parti se poser en Lozère. Et du coup, voilà, on était là et tout. Puis, Sandrine me disait, ah, papa, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Bah, je lui dis, écoute, peut-être t'es enceinte, hein, en déconnant, bien sûr. Elle me dit, ouais, non, attends, t'arrêtes tes conneries. Bah, je dis, écoute, on ne sait jamais. Elle me dit, mais non, c'est parce qu'on a fait la fête, on a abusé et tout. Je dis, écoute, prends un test au cas où. Et puis on verra bien. Et puis ce jour-là, on devait aller se promener, faire une petite rando en forêt, tranquille, etc. Et donc on se promène et tout. À un moment, on s'arrête pour déjeuner. Il y avait un gros tronc d'arbre devant nous. Et puis on s'est assis devant ce tronc d'arbre qui était allongé au sol. Et de là, donc tout excité, tout le monde me dit, bon, alors attends, je fais quand même le test et tout. J'ai dit, oh, vas-y. Puis toutes les 2 secondes, elle regardait, elle regardait, elle regardait. J'ai dit, non, mais attends, donne-moi le test. Je le prends et je le pose sur le tronc d'arbre. Et nous, on était à peu près à 6-7 mètres du tronc d'arbre. Il était devant nous là-bas. Je dis comme ça, écoute, on va faire sortir nos sandwichs tranquille. On va manger. Et puis après, on ira voir ce qui se passe. Et au moment où je dis ça, il y a un papillon énorme, mais énorme, qui volait dans le coin où on était. C'était un peu un endroit super romantique et tout. Et on voit tous les deux ce papillon. Je dis, waouh, t'as vu comme il est magnifique. Je dis, tu sais quoi? S'il se pose sur le test, t'es enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une histoire que je vous raconte. Le papillon s'est posé sur le test. Et quand Sandrine s'est levée pour regarder le test, il était positif. On apprenait qu'elle était enceinte. Et de là, donc, super content, mais en même temps, à se dire, attention, il faut faire gaffe maintenant, faut pas perdre le petit ou la petite et tout. Et en fin de compte, non, 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 on a continué à pas à faire la fête, à faire n'importe quoi, mais à vivre normalement. Parce que ça aussi, quand on est enceinte, enfin une femme enceinte, souvent la première fois, elle n'ose plus monter les marches, elle n'ose plus faire ci, elle n'ose plus faire ça. Souvent, il y a une peur de perdre le petit. Bref, Là, on vit normal nature peinture. Et puis, tout s'est bien déroulé. Et on a eu la chance de voir notre magnifique Jaya arriver. Alors, Jaya, ma fille, c'est parce qu'à l'époque, ben, vous savez, hein, moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, un fumeur. Et donc, Ja, c'est le dieu Rastafari. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, mais Ja, c'est pas mal. Et puis, Ja en fille, ça ferait Jaya. Et Jaya, et hop, de là est venu Jaya, le prénom Jaya. Et du coup, on a trouvé ça super joli, etc. Et quand on s'est un peu renseigné après sur ce prénom en indien, ça veut dire la victorieuse. Et Jaya, c'est une victorieuse. Vous imaginez 8 ans là, comme ça. C'est une guerrière. Et ma fille, c'est une guerrière. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais voilà, c'est une fille formidable qui aujourd'hui a 8 ans. Et de là, bien sûr, on a été voir le fameux gynéco, alors pas celui de l'hôpital, celui qui nous suivait ailleurs. Et quand on lui a annoncé, donc à l'époque, que Sandrine était enceinte, le gars s'est assis dans sa chaise, il a dit, écoutez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Là, ce que je vous recommande, c'est d'aller à l'église, vous pouvez aller brûler un cierge parce que c'est un miracle ce qui s'est passé. Et c'est un gars aussi qui écrivait beaucoup de bouquins sur les FIV et tout. On avait pris quand même un top spécialiste. Donc, bref, nous, on était contents. Et juste quelques mois plus tard, je rentre du travail et Sandrine me dit, tiens, il y a un truc pour toi. Et elle me sort un nouveau test. Et sur ce nouveau test, un nouveau test positif. Et là, j'apprenais que j'allais être papa pour la deuxième fois, d'un petit garçon qui s'appelle Vitali. Et Vitali est né 13 mois après Jaya. Donc, on est retourné voir Génico en lui disant, bonjour, monsieur. Oui, c'est pourquoi? Ben, je suis à nouveau enceinte. Ah bon? Et le gars, il est tombé dans sa chaise. Je vous garantis, il a dit, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ne s'explique pas. Et on lui a dit, mais c'est pas grave et tout. C'était juste qu'on voulait vous donner cette belle nouvelle et tout, parce que ça nous fait plaisir. Et donc voilà, mon fils est né 13 mois après Jaya. Il s'appelle Vitali, parce que moi, j'étais boxeur à l'époque. Et Vitali, c'est un grand boxeur qui a été champion du monde, etc. Et puis, Vitali, c'est tout ce qui est vital, c'est la vitalité. Parce que c'était devenu aussi vital pour nous d'avoir des enfants, etc. Et donc voilà, c'était mon histoire, c'était l'histoire de Florian et de sa chérie Sandrine, et de Jaya et Vitali qui sont là derrière, qui font dodo dans leur chambre. Et je trouvais que c'était important, en cette journée de fête des pères, de vous partager mon histoire. C'est vraiment touchant parce que, du coup, c'est quelque chose qui. La vie, elle m'a fait un putain de cadeau. Elle m'a montré qu'il faut jamais écouter les gens. Faut jamais écouter les spécialistes. Faut jamais écouter les docteurs. En tout cas, on peut les écouter. C'est important quand même. Je dis ça, je suis extrême, mais il faut les écouter. Mais il faut continuer à garder son propre pouvoir. Ne remettez jamais votre pouvoir dans les mains d'un docteur. Lui, il a son expertise, sa connaissance, c'est son métier, il fait son taf. Mais celui qui a le pouvoir ou celle qui a le pouvoir, c'est vous. Et s'il y a vraiment une chose aussi sur laquelle, s'il y a des parents, des couples là qui m'entendent, ou des femmes, des hommes qui aimeraient avoir un enfant, s'il y a vraiment un truc hyper important, c'est de vraiment se poser une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt à avoir cet enfant? Est-ce que c'est quelque chose de puissant en vous? Est-ce que c'est quelque chose de vital? Moi, au début, c'était pas vital. Je vais être honnête, au début, bah, l'idée d'être papa, ouais, ça me disait bien, etc. Mais c'était pas fort. C'était pas puissant. Et en plus, le mode dans lequel je m'étais embarqué ne me plaisait pas parce qu'il n'était pas naturel. Après, ça se serait passé comme ça, c'était très bien aussi. Mais je veux dire par là que c'est important aussi de savoir où on va et de savoir ce qu'on veut et de se dire, est-ce que c'est bien avec cette femme-là que tu veux un enfant, comme la scène du feu rouge, ou est-ce que c'est bien avec cet homme-là que tu veux un enfant? S'il y a un doute, s'il y a un truc de je le fais pour lui faire plaisir ou machin ou bidule, peut-être que tout ça joue aussi au fait de pas fonctionner. Donc, et ça vaut pour tout. Mais la leçon, la vraie leçon de l'histoire, c'est vraiment de continuer à croire, même quand on vous dit que c'est plus possible. Il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut jamais lâcher l'affaire. Et moi, cette expérience de vie, elle me sert tout le temps, 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 tout le temps. Parce que la vie m'a montré que je pouvais croire en elle. C'est vraiment la vie qui a le pouvoir. Et après, c'est vous, votre intention. C'est ce que vous allez engager, c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez rêver, c'est ce que vous allez vouloir vraiment matérialiser qui va arriver ou pas. En tout cas, voilà, c'était un moment que je voulais vous partager dans mon intimité, alors vraiment dans le flow, encore une fois. J'espère que mon histoire va vous inspirer, en tout cas pour celles et ceux qui aujourd'hui peut-être essayent d'avoir des enfants. Et puis j'espère ben voilà, que celles et ceux qui en ont déjà ou qui n'en veulent pas ou qui ne peuvent pas en avoir, parce que ça existe aussi, j'espère que mon histoire, elle vous aura donné quand même de la lumière. Et vraiment, voilà, moi je voulais vous livrer ça pour être encore un peu plus proche de vous et que vous en sachiez un peu plus sur Flow in the Flow. Voilà, c'était un épisode assez perso. Je sais pas, je me suis dit, est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois raconter ça? Est-ce que je dois parler de la drogue? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et que ceci, et que cela. Mais c'est Flow in the Flow aussi. C'est comme ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN. Et donc, c'est aussi d'être quelque part transparent avec vous, c'est d'être honnête avec vous. C'est de ne pas vous montrer un personnage. Après, si ça vous plaît, c'est génial. On continue l'aventure ensemble et on ira jusqu'au prochain épisode. Si ça ne vous plaît pas, ben, c'est pas grave. En tout cas, comme je le dis souvent, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. Et pour ceux à qui ça a parlé, ben, c'est comme d'hab, moi, ces épisodes, c'est un temps que je passe avec vous. C'est gratuit, j'essaie de vous partager de la valeur. Et si vous avez autour de vous, alors là encore plus que d'habitude, des personnes qui sont dans des situations un petit peu voilà, délicates, compliquées, qui essaient d'avoir des enfants, qui n'arrivent pas, etc., et faites-leur écouter ça. J'espère que cette magie, que la magie que la vie a opérée à travers notre couple va opérer chez vos amis, vos relations, etc. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, c'était un heureux papa au bout du micro qui est venu vous raconter son histoire. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu, je crois que ça faisait 12 jours que j'avais pas fait d'épisode. Ça aussi, je suis pas régulier, mais c'est important aussi pour moi de ne pas me mettre dans un truc enfermant en me disant oui, tous les jeudis ou tous les vendredis ou tous les dimanches, je fais mon épisode, etc. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que chaque fois que je fais ça, après, je fais plus les choses naturellement. Je les fais parce que il y a une organisation qui est en place, c'est rythmé, il y a un engagement et j'ai pas envie de ce truc-là. J'ai envie d'avancer in the flow. Alors peut-être que des fois, je fais plusieurs épisodes dans une semaine, peut-être que j'en ferai tous les 15 jours, tous les mois, j'en sais rien. Mais c'est ça aussi qui fait que cette chaîne continue d'exister parce que justement, je le fais dans le flow et que je le fais dans ma liberté et selon mon inspiration. J'espère vraiment voilà, que cet épisode vous aura parlé. Encore une super fête à tous les papas, à toutes les mamans aussi. Je vous souhaite une super journée, une super soirée. Je ne sais pas à quel moment vous êtes en train de m'écouter. Encore une fois, merci du fond du cœur de me suivre. Merci de partager un maximum si le cœur vous en dit. C'est vraiment un geste simple. Mais voilà, là, je pense que cet épisode a besoin d'arriver dans le creux de certaines oreilles. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.